13h, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h. Je suis Olivier Delacroix et je suis ravi de vous retrouver comme chaque jour pendant une heure en compagnie de ma camarade Ombline. Comment allez-vous ma chère aujourd'hui?
Bonjour Olivier, ça va bien, bonjour. Bonjour. À tous.
Pendant cette heure, nous partageons vos expériences de vie car comme vous le savez, Europe 1 s'intéresse à votre vécu. Il y a des secrets que certains préfèrent taire à jamais. Un adultère, un séjour en prison, un décès, une filiation. Chaque famille a ses secrets de famille. Mais il arrive qu'il soit très lourd et qu'il gâche la vie de celui qui n'est pas dans la confidence. Après un décès, les secrets éclatent parfois au grand jour avec leur lot de révélations. On apprend au détour d'un testament que l'on est adopté, que l'on a une demi-sœur ou la véritable cause du décès de notre grand-mère. Comment refaire confiance après la révélation d'un tel secret? Mieux vaut-il parfois vivre dans le secret plutôt que de le dévoiler? Comment vivre au quotidien lorsque l'on sent qu'on ne nous a pas tout dit? Secret de famille, doit-on tout dire? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter.
Et comme chaque jour, 39-21, c'est le standard d'Europe 1. Vous composez ce numéro quand vous le souhaitez. 39-21, 50 centimes la minute pour nous écrire. Twitter, hashtag Europe 1. Et puis Facebook, la page Facebook de l'émission sur le Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Catherine au 39-21. Bonjour Catherine.
Bonjour Olivier.
Bonjour, quel âge avez-vous?
Tous mes vœux.
Tous mes vœux aussi. Merci beaucoup. Plein de bonnes choses pour 2019. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous, Catherine?
Alors, j'ai 54 ans et j'habite dans la région niçoise.
D'accord. Alors Catherine, vous avez une histoire digne d'un roman, hein, on peut dire ça.
Oui.
Car c'est à seulement 40 ans que vous avez su officiellement que vous aviez été adoptée. Ça vous est tombé dessus comment, cette nouvelle?
Ça m'est tombé dessus d'une façon très administrative lors de du paraphage de la déclaration de succession avec ma mère adoptive, puisque
ouais.
C'était en fait contre ma mère adoptive. Et donc, comme je travaillais dans une banque, j'avais l'habitude de tout lire. Donc, j'ai tout relu. Donc, j'ai lu l'état civil de mes parents, bon, des choses que je savais. Puis, d'un seul coup, je suis arrivée à moi, à mon nom.
Ouais.
Et là, il y a marqué « adopté en date due ».
D'accord. C'est-à-dire que si vous n'aviez pas relu, ça serait passé comme ça, en fait. Vous
bah,
pensez que...
ça aurait pu. Oui, c'était le challenge qu'avait. Il avait misé. Enfin, disons que le notaire qui s'est permis de dévoiler ce secret, parce
ouais.
qu'il n'avait pas le droit,
mm-hmm.
M'avait bien cerné. Avait vu que j'étais quelqu'un de très carré, qui vérifiait tout, qui, quand on me demandait des documents, c'était fait correct. Enfin, voilà,
ouais.
quelqu'un
uh-huh.
de méticuleux.
Mm-hmm.
Donc, il s'est dit que comme il me sentait méticuleuse, il doutait que j'allais tout lire.
D'accord.
Il avait misé là-dessus. Ça aurait en effet pu passer à côté.
Mm-hmm. Est-ce que vous vous doutiez de quoi que ce soit?
Depuis toute petite.
Ah, depuis toute petite, ouais.
Depuis toute petite. D'abord, bon, en fin de compte, j'étais adoptée parce que je suis une enfant de remplacement, hein, quand on
ouais.
refait l'histoire.
Mm-hmm.
Et je me souviens très petite avoir accompagné mes parents sur la tombe de leur fils.
Ouais.
Et de m'être dit, oulalalala, ils sont. Et j'avais 5 ans, un grand maximum, et de me dire, oulala, ils sont très malheureux. Et je ne vais pas en rajouter. Il va falloir que je sois très sage, très gentille. Et c'est ce que j'ai été toute ma vie.
D'accord.
J'ai toujours plié. C'est-à-dire que les seules fois où j'ai essayé de dire ce que je voulais, ce que je pensais, c'était pas possible.
D'accord.
C'était eux qui avaient la parole, moi j'étais qu'une enfant.
Comment est-ce que vous avez réagi, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête au moment de où vous réalisez tout ça?
Enfin, la première chose, c'est que, comme on dit souvent, hein, on se détache de son corps,
ouais.
on se voit et on se dit mais c'est pas moi, ah tiens c'est comme dans les films à la télé.
Ouais.
Donc je me suis mise à pleurer, je n'ai pas eu de son qui est sorti de ma bouche. Donc il y avait ma mère à table, mon mari, mes enfants, hein, quand même mm-hmm. il y avait tout le monde là.
Mm-hmm.
Et c'était juste avant Noël 2005. Et mon mari se dit, oh là là, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'elle a encore fait, la belle-mère? En pensant à ma mère qui avait encore fait quelque chose. Elle avait été très Tati Daniel depuis les 6 mois, donc depuis le décès de son mari.
Oui.
Donc il se disait qu'il me tombait encore quelque chose, qu'elle m'avait encore fait une méchanceté.
Mm-hmm.
Et là, je n'ai pas plu, je lui ai juste montré. J'ai mis le doigt sur le papier en disant, voilà. Et là, lui, il lui a dit, mais Josette... Je vous l'ai encore dit il y a quelques jours, hein, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas.
Mm-hmm.
Et elle a dit oui, mais de toute façon, sa mère n'était pas quelqu'un de bien ou quelqu'un d'intéressant. Mm-hmm.
Lorsque voilà. vous parlez d'enfant, de remplacement, à quoi faites-vous allusion exactement?
Bah, mes parents ont eu un fils.
Ouais.
Donc, mes parents sont de la génération 1916-1918. Hein.
Mm-hmm.
Donc, ils ont eu un fils peu de temps après la libération, en 1949.
Ouais.
Et cet enfant, malheureusement, est décédé à 16 ans. Donc, ils se sont retrouvés à 50 ans, un petit peu plus de 50 ans, avec un enfant unique décédé. Et donc, mon père avait tellement peur que ma mère se foute en l'air Il a essayé de trouver une solution. La solution, ça a été de faire une demande d'agrément. Mais comme ils étaient quand même âgés, on leur proposait un enfant de 10 ans.
D'accord.
Mon père faisait partie des gens qui ne voulaient pas que ça se sache. Il ne fallait pas que ça se voit, il ne fallait pas que ça se sache.
Mm-hmm.
Donc, et puis, il fallait pouvoir modeler l'enfant comme on voulait. Donc, il a fait jouer ses connaissances, l'argent, les
ouais.
connaissances, le
mm-hmm.
pouvoir,
mm-hmm.
pour, entre guillemets, arriver à avoir un enfant en bas âge. J'avais 2 ans et demi, 3 ans quand je suis arrivée dans leur foyer. Ça leur a coûté une certaine somme. C'est pour ça que toute mon enfance, j'ai entendu avec tout ce qu'on a fait pour toi. Mais c'était
ouais,
dit
ouais,
d'une
ouais.
façon... C'était lourd, tout ce qu'on a fait pour
comme,
toi.
Comme un reproche.
J'ai compris après.
Mm-hmm.
Oui, voilà, avec tout ce qu'on a fait pour toi. Mais d'ailleurs, la réaction de ma mère, immédiatement après qu'elle ait lu le texte, enfin, qu'elle ait lu le papier, elle a dit, de toute façon, t'as sorti de l'assistance publique, on ne sait pas comment t'aurais tourné si on t'avait pas sorti de là.
Alors, dans ce contexte-là...
Ce qui est faux, puisque je ne suis pas allée à l'ASE, ce qui est faux, parce
ouais.
que j'étais dans ma famille biologique.
Mm-hmm. Vous allez me raconter ça après, justement. Est-ce que cela vous a soulagé d'apprendre ça, même si vous vous en doutiez?
Alors, c'est un... Oui, la première chose, c'est un gros soulagement, c'est dire, je suis pas folle. Il y a plein de choses que je ne sentais pas, que je ne comprenais pas, plein de choses qu'on m'avait racontées qui ne tenaient pas la route, qui tiennent la route sur dans les oreilles d'un enfant, mais qui tiennent déjà moins la route quand on est adolescent, encore moins quand on devient adulte et qu'on devient soi-même maman. Donc là, il y avait beaucoup d'incohérences qui voilà. Mais moi, je me heurtais à un mur. Hein. Non, rien. Enfin, voilà, un mur. Donc ça a été les premiers mois, les premiers mois, ça a été un soulagement. Après, une porte se ferme. Hein, on ferme un livre, ça y est, je sais d'où je viens. Je sais. Que je chantais, c'était la vérité, mais ça ouvre d'autres questionnements.
Et justement, quelle recherche avez-vous entrepris à partir de ce moment-là?
Alors, moi, c'était un petit peu compliqué. Disons que j'avais des brides, j'avais réussi à retrouver ma marraine 2-3 ans avant, parce que j'avais toujours ces doutes qui
ouais.
me tenaillaient, donc
mm-hmm.
qui m'avait dit « mais pourquoi tu recherches? Il n'y a rien à rechercher, c'est tes parents, enfin... » Mais j'avais bien senti que ces réponses cachaient quelque chose. Donc, quand mon père est décédé, je l'ai appelé. Je dis, voilà, mon père est décédé, peut-être que tu as des choses à me dire maintenant. Ah non. Puis de toute façon, si ça avait été le contraire, j'aurais repris contact. Mais comme là, c'est ta mère qui est encore en vie, je ne reprends pas contact. OK. Donc, quand j'ai su que j'étais adoptée, bien sûr, la première personne que j'ai appelée, le lendemain, c'est elle. Par chance, elle était encore en vie, parce que c'est des gens quand même qui sont âgés.
Oui.
Et là, elle m'a donné une version de l'histoire. Donc, j'ai eu, si vous voulez pareil, j'ai eu le nom de famille de mon père biologique,
mm-hmm.
qu'il n'avait pas reconnu puisqu'il était marié. J'ai eu des bribes,
une version édulcorée.
J'ai eu un scénario.
Ouais.
Voilà, j'ai eu un scénario qui l'arrangeait.
D'accord.
Moi, quelques jours après, j'ai eu rendez-vous avec le notaire, qui donc, comme je voulais... Alors lui, il m'a fait savoir, donc il avait écrit sur la déclaration de succession, il avait fait apparaître les mentions marginales de mon acte de naissance, chose qu'il n'aurait pas dû faire,
mm-hmm.
mais comme il m'a expliqué, il pouvait toujours dire que le clerc de notaire qui avait tapé la déclaration de succession n'avait pas fait attention, il s'était trompé, l'erreur est humaine, il aurait pu faire apparaître. Si vous voulez, il s'était renseigné avant pour pas que ça fasse non plus trop de vagues, et pour eux et pour leurs études. Donc, il m'a donné mon jugement d'adoption. Donc
mm-hmm.
là, j'ai eu le nom de ma mère biologique.
D'accord. Catherine, restez en ligne avec nous, justement. On va rester sur cette découverte, le nom de votre mère biologique et comprendre un peu mieux ce qui vous est arrivé lorsque vous êtes venu au monde. On continue d'en parler dans quelques instants.
Des secrets qui concernent le décès d'un aïeul, une maladie, un divorce, une naissance, un revers de fortune. Quel est le secret de votre famille? Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, 3921 pour venir nous raconter.
Et nous sommes toujours avec Catherine au 3921 qui nous expliquait qu'à la mort de son père, elle avait découvert qu'on lui avait caché pendant 40 ans presque, qu'elle était adoptée. Catherine, nous en étions au moment où vous apprenez le nom de votre mère biologique. D'abord, est-ce que ça vous dit quelque chose ce nom? Est-ce que vous arrivez à relier les choses?
Non, du tout. La seule chose, c'est que ma mère me dit que c'était quelqu'un... de pas intéressant, parce que j'ai réussi à avoir que ça comme bride, que c'était pas quelqu'un d'intéressant, que de toute façon avec son mari, donc avec mon père, il s'était toujours demandé comment je pouvais être une aussi bonne maman,
mm-hmm.
vu la mère que j'avais eue. Donc c'était totalement opposé, c'est-à-dire que d'un côté elle disait qu'elle savait pas du tout d'où je venais, parce que j'avais dit mais tu connais mes parents, tu connais mon histoire, non moi je sais rien,
oui.
Et de l'autre côté elle était quand même capable de me dire que ma mère était quelqu'un d'inintéressant, qui ne valait pas grand-chose, et que, voilà. Donc, c'était... voilà. Donc, de là, j'ai cherché elle en premier. Elle avait quand même 89 ans à l'époque. Je me suis dit, c'est une décision qu'ils ont prise à deux. Elle est toute seule. Je ne vais pas lui infliger ça. Donc, moi, de mon côté, j'ai entamé mes recherches, puisque ça me concernait moi, personnellement, et plus elle.
Oui.
Puisqu'elle était toute seule, qu'elle n'était pas en état non plus de tout me dire. Et puis, mon père avait surtout géré le côté administratif et financier. Donc je savais que je tirerais pas grand-chose. Les seules choses qui m'auraient intéressée et que j'ai essayé vainement d'avoir tant qu'elle était bien, c'est de savoir nos premières fois toutes les deux. C'est-à-dire quand elle m'a récupérée, elle m'a changé de prénom, savoir qu'elle... Voilà. Mais le côté de l'histoire par elle-même, je savais que je n'en tirerais rien. Mais donc j'ai cherché.
Mais finalement, on parle aujourd'hui plus des secrets de famille et des effets, finalement, et des dégâts qu'ils commettent. Est-ce que vous en avez voulu à vos parents adoptifs de vous avoir caché la vérité comme ça?
J'en ai voulu, j'ai surtout trouvé que c'était un beau gâchis. Ils se sont gâchés leur vie, ils ont vécu dans le secret, eux. Ils ont tout bloqué, hein, ils ont tout verrouillé. On a déménagé quand adoption plénière. Après, quand j'ai retrouvé tous les documents et que j'ai pu faire un fil, je me suis aperçue qu'on a habité à Paris tant que le jugement de l'adoption plénière n'a pas eu lieu. Donc on est resté à Paris jusqu'en 78, qu'ensuite on est parti dans le midi et qu'ils ont tout verrouillé. Tous les gens que je connaissais, avec qui j'aurais pu, même des cousins, mon parrain, etc., que j'aurais pu avoir des relations et puis qu'on se téléphone et qu'on se voit sans la présence de mes parents, ça a été impossible. Tous les gens que je voyais qui connaissaient mes parents, je ne les voyais qu'en leur présence.
Parce que ce secret, il était partagé par toute la famille. En fait, vous étiez la seule.
La famille, les voisins, la femme de ménage, le jardinier, même des gens qui sont venus faire des travaux dans le midi, donc j'avais 17 ans. Donc c'était bien bien après, ils sont venus faire des travaux, je sais pas pourquoi on en a parlé, ils m'ont dit « mais oui, votre papa m'en avait parlé ».
Alors là,
et vous dites « moi, je ne suis pas conscient ». Voilà, c'est aberrant, tout le monde sauf moi. Et d'ailleurs, j'ai une cousine que j'ai retrouvée grâce à Internet, enfin j'ai pu rentrer en relation, elle m'a dit « écoute, bah, si on s'était vu avant, moi je te l'aurais dit ». Parce que je pensais que franchement qu'il te l'avait dit plus tôt. Elle était persuadée qu'à un moment, il l'aurait dit.
Vous êtes construite sur un secret. Hein. Comment vous le vivez, ça, aujourd'hui ?
Eh ben, j'ai l'impression que... Alors, ce qui est très compliqué quand vous disiez quand on l'apprend, et que voilà, d'un côté, j'ai grandi avec une histoire où on m'a dit que mes grands-parents, c'était un tel, d'accord, hein, comme n'importe quel enfant, tes grands-parents maternels, paternels, dans l'un. Puis d'un seul coup, vous vous apercevez que cette histoire-là, en fin de compte, c'est pas la vôtre, puisque vous n'auriez pas dû grandir dans cette famille, vous auriez dû grandir dans l'autre famille. Et quand vous retrouvez l'autre famille, mon père en tout cas, biologique, quand il m'a retrouvé, enfin quand je l'ai retrouvé, a eu à cœur, mais vraiment ardemment, de m'amener des photos, bon, toutes les photos que j'avais pas de moi avant 3 ans, puisque je n'en avais pas, et il a essayé de m'apporter les photos de mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, de me raconter la famille et d'essayer de me dire, tu fais partie de cette famille-là, pas de l'autre. Moi, j'arrivais pas. Vous voyez ce que je veux dire ? J'arrivais
normal,
pas. C'est-à-dire, j'ai l'impression d'être coupée en deux. Je suis un peu Catherine, puisque c'est le nom de mes parents adoptifs, mais je suis aussi un peu Magali, le prénom par lequel mon père biologique, le temps qu'il a été vivant, m'a appelée pendant qu'on a eu notre... Enfin, quand on s'est retrouvés et qu'on se voyait. Donc je suis moitié Catherine, moitié Magali.
Et alors, justement, comment ça se traduit, ça, le fait d'être... aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez encore à moitié Magali, à moitié Catherine ? Parce que vous le décrivez très bien. Vous décrivez très bien que lorsque vous découvrez tout ça, vous rencontrez votre père biologique et puis que votre vie, elle aurait pu être... aux côtés de ce père, elle ne l'a pas été, elle a été aux côtés de vos parents.
Ça, c'est pas un regret.
D'accord.
Mais ça, c'est pas un regret.
Quel type de questions se pose-t-on lorsqu'on vit, quand on découvre un secret comme ça ?
Par rapport à moi, ma vie et après mon parcours, ce que j'ai appris, je me dis, mais pourquoi ? Mais pourquoi avoir fait un enfant, pourquoi après ne pas m'avoir recherché, je comprends pas. Après je comprends, c'est mon grand-père qui a fait que je sois a tout fait pour me sortir de ce couple qui était comme je dis Richard Burton et Liz Taylor, vous voyez, c'est un peu violent, un peu je t'aime moi non plus, et puis moi j'étais au milieu, voilà, je faisais ping-pong, et les passages à l'hôpital, comme le peu de fois que j'ai eu après ma mère biologique, elle m'a bien dit, j'ai pas été très tendre avec toi, parce que j'ai été opérée X fois du nez, j'ai eu des gros soucis à ce niveau-là, et j'ai appris que c'était ma mère, enfin, c'était pas un accident de poussette comme on m'avait raconté, donc c'est mon grand-père paternel qui m'a sorti. Qui a voulu sortir cet enfant de cette situation. Et en fin de compte, il a bien fait. Dans le fond, ça a été bien fait. Le problème, il vient qu'on n'a pas mis la forme. C'est-à-dire que mes parents, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mes parents adoptifs, ont fait ce qu'ils pouvaient comme ils pouvaient à l'époque, puisqu'on n'en parlait pas comme maintenant, il ne fallait pas le dire, enfin, il y avait beaucoup de non-dits. Donc ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mon père a fait ça pour sauver sa femme, puisqu'il avait peur qu'elle se mette en l'air. Mais à aucun moment, ils ont pensé à moi. Ils n'ont pas eu le recul de se dire, mais c'est pas un chien, c'est un enfant.
Comment est-ce que vous vous reconstruisez aujourd'hui, Catherine ?
Alors moi, je crois que je dis toujours que je crois que depuis toute petite, je sais que je peux m'en sortir que toute seule. Je peux compter que sur moi, sur ma volonté. Ça, c'est ma façon d'être. C'est-à-dire que même quand je suis à moins 20, j'ai perdu un petit garçon, il y a quelques années. Bah, même quand on est en dessous de tout, que c'est le pire du pire, bah, j'arrive à remonter et à avancer. Mmh. Je ne peux pas m'expliquer pourquoi, je suis comme ça tout le temps.
Mais peut-être que parce qu'à partir de 2 ans, en tout cas même dès votre naissance, vous êtes née dans un milieu visiblement assez explosif et un peu maltraitant et que vous avez appris à survivre dès petite. En tout cas, merci beaucoup pour votre appel et votre témoignage au 3921, Catherine. Et puis encore, bonne année à vous. Dans quelques instants, nous serons avec Chantal Diamante. Elle est thérapeute familiale et membre fondateur de la Société de thérapie familiale.
Et Aurore nous écrit sur Facebook « Quand un secret nous ronge et peut mettre en danger d'autres personnes, il faut finir par le dire. »
Europe 1.
Ce que vient de raconter Catherine, qu'on a entendu sur Europe 1, est-ce que ça vous parle? On vous écoute au 3921, on parle des secrets de famille cet après-midi. Écrivez-nous via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Jusqu'à 16h, vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1 et nous parlons des secrets de famille quand ils risquent d'empoisonner plusieurs générations. Comment ça se passe chez vous? Venez nous raconter votre histoire au 3921.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Chantal Diamante, thérapeute familiale et membre fondateur de la Société de thérapie familiale. Bonjour madame, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1.
Oui, bonjour à vous.
Bonjour. Alors, on vient d'entendre l'histoire de Catherine, hein, qui est assez rocambolesque. C'est une histoire d'adultère et de filiation. Est-ce que ce mensonge était-il lié à l'époque, selon vous?
Alors, hélas, non. Hélas, non. J'aurais bien aimé vous dire que oui, mais non. Mais non. Dans ce 21e siècle, c'est quand même très fréquent.
Ah oui.
D'une fois que l'adoption... Alors, effectivement, l'adoption, on en parle beaucoup plus fréquemment maintenant et c'est beaucoup moins tabou. Dans l'histoire de Catherine, ce qui est très touchant, c'est que c'est une adoption qui est liée à une transgression, en fait.
Mmh.
Hein, c'est-à-dire qu'elle doit vivre deux choses différentes, à la fois avoir été dans une famille de naissance qui n'a pas été une famille très sympathique, de ce que j'ai compris,
oui.
Mais une famille maltraitante. Et le fait qu'elle ait été adoptée, enfin, on pourrait presque dire achetée, puisqu'elle fait allusion à ses parents adoptifs payé cet enfant, ce qui n'était pas non plus rare.
Oui, c'est tout à fait. En fait, Catherine dit avoir senti inconsciemment qu'un secret planait sur sa famille et sur elle. Est-ce que c'est fréquent et comment peut-on le sentir, ce type de choses, à votre avis?
Alors, c'est extrêmement fréquent. Et quand elle décrit un soulagement, les personnes, les patients ou les familles disent vraiment aussi que le fait de savoir soulage. Parce que cette intuition, elle est due au fait que l'enfant pressent dans les réactions des parents, dans tout ce qu'on va appeler le langage du corps, l'infraverbal, quelque chose qui n'est pas cohérent. Mmh. Par exemple, le parent va se mettre à pleurer quand il voit une image à la télé, il va éteindre la radio quand on passe quelque chose, il y a des mots qu'on ne peut pas dire, des lieux où on ne peut pas aller. Et l'enfant qui est sain, qui a priori est bien avec son parent, ses parents, se pose des questions. Et le souci qui vient, et elle le dit parfaitement, c'est qu'à un moment, l'enfant renonce a priori à comprendre.
Ouais. Ouais, ouais.
En fait, il ne renonce pas, il refoule.
Mmh. Dans ce type de situation, ce qui justifie le mensonge, généralement, c'est la protection de l'enfant. Et on peut revenir à ce que ça fait écho à ce que vous venez de dire, hein, des réactions de parents qui, tout à coup, montrent que finalement, les raisons de ce secret, c'est plutôt de se protéger soi-même en tant que parent.
Tout à fait, parce que souvent le secret est lié à une honte, qui est souvent liée aussi à la question de la honte sociale. Dans le cas de Catherine, ça me semble un peu plus complexe, si je peux me permettre, parce que ses parents ont été parents biologiques d'un enfant qui est mort lorsqu'il était adolescent, et on a vraiment le sentiment que c'est un deuil impossible,
oui.
Et que, voire même une adoption impossible, parce que quand lorsque sa mère lui dit, alors qu'elle comprend pas comment elle a pu être une bonne mère, alors que elle a eu elle-même une mère biologique défaillante, c'est extrêmement violent.
Ouais.
On sent bien que l'adoption n'a pas eu lieu.
On sent en tout cas dans cette histoire que l'enfant de remplacement, en fait, on a bien senti cette notion-là dans l'histoire de Catherine. Ouais. Comment peut-on se construire autour d'un secret? Comment se sentir véritablement soi-même?
Alors, c'est effectivement comment se construire autour d'un secret, c'est toujours extrêmement compliqué. Soit on va le sublimer dans des activités artistiques, professionnelles. Par exemple, Catherine dit qu'elle est quelqu'un qui est réglo. Elle veut tout savoir, non pas pour le savoir, mais pour le ranger, pour le classer. Et ça lui a donné des compétences, probablement. C'est une femme dynamique, complète. constante, fiable. Et ça peut être une forme de, oui, de sublimation, c'est-à-dire à partir de cette question de « j'ai pas le droit de savoir », et bien ce que j'ai le droit de savoir, je vais le savoir.
Je vais le savoir bien. Mais vous, Chantal Diamante, vous qui êtes thérapeute familiale, à votre avis, est-il nécessaire de tout dire ?
Alors, tout dire, non. On ne dit pas tout, bien entendu. Ne serait-ce que, par exemple, les parents ne parlent pas de leur sexualité. C'est une chose que les enfants n'ont pas à savoir. Ils ont à l'imaginer, bien entendu, mais jamais à en entendre parler directement. C'est souvent la question qu'on pose en amont, nous, c'est de savoir pourquoi il y a eu un secret.
Ouais.
C'est pas tellement le secret, c'est à quoi il a servi, ce secret. Au service de quoi il était dans les liens de famille.
Et finalement, la période la plus propice à la révélation de ce secret, elle correspond à un âge selon la nature du secret ou est-ce qu'il y a un âge où on se dit, on peut dire les choses ?
Je pense que le bébé comprend. Le bébé vraiment comprend. Et quand ça concerne l'adoption, je pense qu'on doit le dire au bébé dès qu'on l'accueille.
Ouais.
Parce qu'il y a de l'amour dans l'adoption. Il y a même peut-être même de l'amour dans l'abandon. Ça, c'est Dolto qui disait ça, François Dolto, qui disait « Abandonner est un acte d'amour parce que les parents se disent qu'ils ne seront pas assez aimants ou compétents pour leur enfant, que leur enfant mérite mieux. » Alors, c'est peut-être à tort, mais c'est comme ça. Alors, pour l'adoption, c'est une chose, mais pour d'autres secrets qui sont extrêmement complexes, on peut dire les choses en les aménageant selon l'âge de l'enfant.
Quel impact le secret peut-il avoir sur les générations à venir ?
Si le secret, là on est à la deuxième génération du secret, vous savez que Tisseron cherche Tisseron a très bien travaillé sur les trois générations du secret, et dans le cas de Catherine, on a ce qu'on appelle la deuxième génération du secret, c'est-à-dire l'innommable. Elle a l'intuition de quelque chose, elle ne peut pas le dire. Et la troisième génération du secret, imaginons, je ne sais pas, que Catherine n'ait pas pu savoir cela et que ses enfants portent ce secret aussi, c'est ce qu'on appelle la transmission inconsciente transgénérationnelle, et bien on aurait été là dans quelque chose de beaucoup plus compliqué qui est l'innommable, parce qu'on ne peut même pas nommer quelque chose dans la mesure où on ne sait pas de quoi on parle, en fait. Et ça donne des symptômes extrêmement graves, je pense à l'anorexie, à la schizophrénie, enfin des choses, voire même à certaines pathologies addictives comme les toxicomanies graves, et c'est extrêmement compliqué.
Chantal Diamante, je rappelle que vous êtes thérapeute familiale et membre fondateur de la société de thérapie familiale. Dans quelques instants, vous restez en ligne avec nous, car dans quelques instants, nous accueillerons Noémie. Elle a connu la véritable cause du décès de son grand-père, presque 10 ans après sa mort.
Et Catherine nous écrit sur Facebook un extrait du message de Catherine. Il faut libérer la parole. Alors ça fait du bien, ça répond à une partie de nos questions, mais ça en apporte d'autres savoirs, cependant, et toujours moins lourds que le doute.
Europe 1.
Les secrets de famille, que doit-on dire, que doit-on taire, et qui sait quoi exactement ? Venez nous raconter votre histoire, on vous écoute au 3921.
Et nous accueillons maintenant Noémie sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Noémie et merci d'être avec nous.
Bonjour.
Quel âge avez-vous ?
J'ai 23 ans.
23 ans. Alors Noémie, votre grand-père est décédé en 2000. Vous aviez alors 5 ans. Même si vous n'étiez pas en âge de tout comprendre, que vous a-t-on dit des raisons de la mort de votre grand-père à l'époque ?
Donc à l'époque, on m'a dit que mon grand-père était décédé de cause naturelle, en fait, une crise cardiaque.
D'accord. Et donc 15 ans après, votre grand-mère est décédée et à ce moment-là, vous avez fait une découverte.
Oui, mais mes parents m'ont annoncé en fait que mon grand-père s'était finalement en fait suicidé, contrairement à ce qu'on nous avait dit 15 ans plus tôt.
Alors là, vous aviez donc 20 ans.
20 ans, oui.
Comment est-ce que vous avez reçu cette nouvelle déjà ?
Tout d'abord, c'est un choc, parce que je m'y attendais vraiment pas du tout.
Ouais.
Et j'étais plutôt énervée, je comprenais pas pourquoi. C'était plutôt dans ce sens-là, plutôt de la colère.
Ouais.
Et en fait, après, plus les mois ont passé, plus c'était le temps de comprendre en fait pourquoi il avait fait ce geste. Et maintenant, c'est complètement accepté.
Alors, je suppose que la compréhension de ce geste, comme vous dites, elle est passée par un échange avec des membres de votre famille. Est-ce que c'est avec vos parents que vous avez dû échanger et pour essayer de comprendre ?
Oui, exclusivement avec mes parents, parce que mes oncles et tantes n'ont pas informé mes autres cousins et cousines de ma famille, en fait. C'est exclusivement avec mes parents.
C'est encore aujourd'hui quelque chose qui est encore un secret.
Ouais, Mmh. Oui, d'une partie de ma famille, ouais, c'est encore un secret.
Et ce secret, vous pensez qu'il était trop difficile à garder pour eux, au final ?
Je pense, enfin, après, mes parents, je sais que ça a été très dur pour eux. Donc, au bout d'un moment, comme ma grand-mère n'était plus là, en fait, mon père surtout ne se sentait plus obligé de retenir ce secret, en fait.
Ouais.
Mais les autres membres de ma famille, je pense que c'est encore trop dur, et même d'accepter le geste de mon grand-père, en fait.
Mmh. Vous savez aujourd'hui quelles sont les causes qui ont poussé votre grand-père à commettre l'irréparable ?
Une partie, mais pas, je pense pas tout, en fait.
Mmh. C'est quelque chose qui anime encore votre curiosité, qui vous empêche d'avancer ?
Non, pas du tout. En fait, j'ai accepté ce geste. Après, maintenant, je cherche pas à comprendre entièrement pourquoi. Et on m'a dit certaines causes, mais pas, je pense pas tout. Mais aujourd'hui, j'ai plus l'envie de savoir pourquoi. C'est quelque chose que j'ai accepté maintenant.
D'accord. Est-ce que vous leur en avez voulu à votre famille de vous avoir caché tout ça ?
Au début, je leur ai dit que je comprenais pas pourquoi ils nous l'avaient caché. Et en fait, j'ai vite oublié cette incompréhension par rapport à l'énervement que j'avais en fait envers mon grand-père.
Mmh. Alors, aujourd'hui, dans votre famille, certaines personnes ignorent encore les vraies raisons de la mort de votre grand-père. Comment est-ce que vous le gérez, ça, par rapport à ces personnes ? Parce que on vous a caché la vérité à vous, et puis on vous a révélé tout cela. Mais on continue de cacher à certains. Comment est-ce que vous le vivez ?
Moi, je le vis mal, le fait qu'elle ne le sache pas. J'en ai parlé, moi, à mes parents. Je leur ai dit que elles étaient largement en âge de comprendre, hein, parce qu'elles sont plus âgées que moi, et qu'il est temps de leur en parler. Mais eux, c'est leur mère qui ne veut pas leur en parler. Et malheureusement, c'est son choix, et je pense qu'un jour, ça viendra. Mais plus elle attend, plus je pense que... elles auront du mal à comprendre le geste de leur mère. Quoi.
Mmh. Merci beaucoup, en tout cas, Noémie, pour votre appel et votre témoignage aujourd'hui sur Europe 1.
Merci à vous, au revoir.
Chantal Dianté, je rappelle que vous êtes thérapeute familiale et membre fondateur de la société de thérapie familiale. Dans le cas d'un suicide ou d'une mort violente, par exemple, est-ce nécessaire de ne pas dire toute la vérité à un enfant ?
La question du suicide d'un membre de la famille, elle est toujours très complexe, parce que la famille vivante, la famille qui reste, se pose toujours la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait ou qu'est-ce qu'on aurait dû faire. Donc il y a beaucoup, beaucoup de culpabilité. Celui qui se suicide est ressenti par ce qui reste. Et là, notamment, cet homme a dû se suicider quand il était quand même un homme relativement âgé, puisqu'il était grand-père. C'est aussi, les autres disent... il ne nous aimait pas assez, quelle importance on avait pour lui pour qu'il puisse partir sans nous. Et il y a une autre chose qui est quand même très opérante, c'est le fantasme, en tout cas la crainte de la contamination. Mmh. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui se suicide, si on en parle, les autres vont faire pareil.
Mmh.
Alors évidemment, pour une petite fille de 5 ans, on peut comprendre que les parents aient eu la délicatesse d'attendre, de la préserver, d'une mort naturelle, ce qui n'en est pas une. S'il y en a une qui ne l'avait pas, c'est bien le suicide. Et ensuite, ce qui est très touchant chez Noémie, encore une fois, c'est qu'elle se retrouve dans une situation paradoxale, à savoir qu'on la met dans la complicité d'un secret dont elle ne veut pas.
Oui, oui, oui.
Hein, et bon, et elle dit, les autres membres de la famille de mon père ne sont pas encore prêts ni disponibles à. Mais peut-être que parfois, les enfants qui deviennent des adultes peuvent s'autoriser à avoir une maturité qui n'était pas celle de leurs aînés.
Mmh. Enfin, comme on l'a entendu, Noémie aurait préféré qu'on puisse lui annoncer cette nouvelle autour de ses 14-15 ans, car elle considérait qu'à ce moment-là, elle était en âge de comprendre tout cela. Chantal Diamante, vous restez bien évidemment en ligne avec nous. Dans quelques instants, nous accueillerons Lucienne. Elle a dû se construire toute sa vie en ne sachant pas qui était sa mère, alors que son père le savait.
On a le témoignage de Christian sur Facebook.
Oui.
Pas simple d'ailleurs comme histoire, hein, celle de Christian, a priori, puisque ce sont quelques lignes, hein, son témoignage. Pour respecter les dernières volontés de maman, annoncer aux oncles et tantes que leur sœur aînée n'a pas le même père, et le faire le jour des obsèques, donc j'imagine de maman,
oui.
alors qu'ils ont entre 65 et 78 ans. Un secret de famille gardé pendant 80 ans.
C'est-à-dire donc annoncer que dans la fratrie...
Dans la fratrie, donc de la maman vient de décéder, oui. ce que j'ai compris, la fratrie est là pour les obsèques, mm-hmm. et annoncer que l'aîné de cette fratrie n'a pas le même père.
D'accord. Sympa comme responsabilité. Je ne sais pas qui voilà. était responsable de cette...
De ce secret, en tout cas qu'il l'a dévoilé ouais. aux obsèques, mais en tout cas...
Sacrée mission.
Ça n'a pas dû être facile, oui. À chaque époque, à chaque famille, son secret, vous y avez été confronté quand un non-dit risque de faire exploser le noyau familial. Vous en parlez au 3921 avec Olivier Delacroix.
Je repensais à vos histoires
de Christian.
De Christian. Ouais. Rien de mieux pour faire exploser, en tout cas, le jour des obsèques de cette dame, quand même.
C'est terrible.
Bon, nous allons maintenant accueillir Lucienne. Bonjour, Lucienne, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Oui, bonjour Olivier et votre équipe.
Bonjour, quel âge bonjour. Avez-vous et d'où nous appelez-vous, Lucienne ?
Alors, j'ai 61 ans oui. et je vous appelle de Tende, c'est dans le nord du département des Alpes-Maritimes.
D'accord.
À 80 km de Nice, on va dire.
D'accord. Alors, Lucienne, vous êtes née en Afrique du Nord. Votre père vous a reconnue, mais pas votre oui. mère. C'est donc voilà. votre famille paternelle qui vous a élevée ensuite dans c'est la région ça. Niçoise. Et c'est à l'âge de 10 ans que vous avez commencé à vous questionner sur vos origines. Est-ce que oui. ça vous tourmentait ? C'était important pour vous de savoir quel était votre passé ?
Ben, jusqu'à l'âge de 8-10 ans, c'était pas très important, même si y avait quand même des attitudes à l'école, puisqu'à ce moment-là, on nous demandait de donner clairement nos références pères et mères quand on, oui. quand on était inscrit, et il fallait le faire devant tout le monde au tableau. Mais jusque-là, ça n'a pas été trop embêtant. Ça a été après.
Après, oui.
Quand je suis entrée au collège et qu'il y a eu différentes choses qui se sont produites. Voilà, mmh. hein.
Alors là, vous avez voilà, commencé à poser des questions. Et oui. vous les avez posées à qui, ces questions ?
Alors, moi, je les ai posées à ma tante paternelle, puisque c'est elle qui m'a élevée, hein, oui. avec ma grand-mère. Mmh. Et c'était toujours vraiment fermé. Il n'y avait absolument pas moyen que je sache quoi que ce soit.
Et à votre papa, en fait
Alors non, mon père, non. Comme je n'ai pas grandi avec lui,
oui.
C'était difficile. Je le voyais très peu, je le voyais peut-être une ou deux fois par mois. Et la crainte de cet homme, en fait, la crainte du personnage a fait que je n'ai jamais osé lui demander clairement. Mmh. Et la mmh. crainte que j'avais à cette époque-là, je l'ai toujours, hein, du reste.
D'accord.
J'ai jamais pu lui demander face à face, papa, que s'est-il passé ?
Parce que votre papa est encore en vie aujourd'hui ?
Ah oui, mon papa est toujours en vie, oui, oui.
D'accord.
Toujours en vie, oui.
Alors,
oui.
quelle recherche vous avez entrepris, Lucienne ?
Alors, dans un premier temps, j'ai donc questionné autour de moi, c'est-à-dire ma famille, mais c'était difficile.
Oui.
Après, j'ai commencé à rechercher, en fait, surtout quand mon père s'est marié. Il s'est marié, j'avais 14-15 ans.
Oui.
Et là, il y a une difficulté qui a surgi, c'est que le fait que je sois reconnue mais légitimée par son mariage, c'est donc un acte qui apparaît sur mon acte de naissance.
Mmh.
Ça ferme toutes les recherches qui auraient été possibles auparavant. Hein. Voilà. Mmh. Alors j'ai fait ça, j'ai fait des recherches auprès du CNAOP, là, oui, je crois que c'est ça.
Ouais.
La recherche, voilà. J'ai été au commissariat, j'ai fait différentes choses. Et puis, une dizaine d'années de ça, on m'a conseillé d'écrire carrément ou de contacter l'archevêché dans lequel j'aurais pu être baptisée, puisque mmh. j'ai été baptisée.
Oui.
Et j'ai contacté et je n'ai jamais eu de réponse. Et je n'arrête pas d'écrire, d'envoyer des courriers, mais je n'ai pas de réponse.
Et est-ce que vous avez la moindre idée d'où vous êtes née en Afrique du Nord, en fait ? Est-ce que votre papa vous a dit de quelle région ou même de quelle ville ou
ah
quel
ben
village ?
Oui. Oui, oui, puisque de toute façon, sur mon extrait d'acte de naissance, c'est bien écrit, hein, bien sûr. Je suis née à Port-Lyoté, au Maroc. Voilà,
ouais.
hein, il était lui-même employé dans un hôtel de ce village.
D'accord.
Et voilà, hein, tout simplement.
Et donc, vous n'avez jamais pensé à aller faire un petit tour de ce côté-là, voir si et poser des questions aussi là-bas au Maroc ?
Non, je n'y ai jamais pensé. C'est pas que je n'y ai pas pensé, mais... Disons que j'ai quand même eu quatre enfants et ça a été difficile pour
oui.
moi d'après de me libérer. Voilà, bon, c'est peut-être une excuse, hein, je ne sais pas. Mm-hmm. Je ne sais pas du tout.
Vous,
voilà.
vous dites que vous avez l'impression de ne pas être totalement vous-même. Comment ça se traduit au quotidien, cela ?
Ben, tout simplement parce que physiquement, moi, je suis très différente de mes cousins et cousines, par exemple.
Oui, ouais.
On est d'origine espagnole, tous. Hein,
ouais.
Et chez moi, ils sont très, très bruns. Bon, moi, c'est vrai que je ressemble à mon père et que je suis plutôt de type clair. Voilà, les cheveux clairs, la peau assez claire, enfin voilà. Et puis, parce qu'il y a ce manque, surtout sur le plan affectif.
Ouais.
Voilà, moi, j'aurais aimé vivre... Une passion avec une maman, lui confier mes secrets. Bon, mmh. J'ai eu un parcours de femme assez particulier et je me dis que si elle avait été là, j'aurais pas eu ce parcours.
Ouais,
ça aurait été plus facile.
Ouais, ouais. Mmh, mmh.
Vous voyez,
ouais.
comme la vie de mes enfants, de mes deux filles et mes deux garçons est peut-être plus aisée parce qu'ils se sentent aimés. Je pense que ça aurait été différent.
Ouais.
Oui.
Oui, oui.
Et puis bon, en plus cette espèce d'héritage de silence et de solitude m'a poursuivi toute la vie, en fait.
Oui, oui, bien évidemment.
C'est tout, hein. Mmh. Voilà.
Est-ce que ce sont des questions que vos enfants vous ont posées, en fait ?
Oui.
Est-ce qu'ils ils étaient intéressés par les recherches que vous meniez ? Est-ce qu'ils vous ont aidé à un moment ?
Oui. Oui, un de mes fils particulièrement. Et bon, lui, il est très proche de mon père. Enfin, il était très proche de mon père. Et bien sûr qu'il l'a questionné. Et la réponse a été que mon père ne se souvient pas du nom de ma mère.
Oui. Mmh. Et ça, est-ce que vous croyez, ça ?
Non, c'est peu probable.
Lucienne, restez en ligne avec nous allons continuer à parler de votre histoire avec Chantal Diamanté, que nous avons toujours en ligne. Elle est thérapeute familiale et membre fondateur de la société de thérapie familiale. Et vous allez pouvoir échanger un petit peu toutes les deux sur ce que peuvent mener ces secrets de famille, ce qu'ils peuvent provoquer. Vous restez avec nous.
Hein. Et il y a Christine qui témoigne sur Facebook, sur la page du groupe. Alors c'est un message plein de mystère. J'ai été mise face à un lourd secret, dit Christine. Pour moi, ça m'a soulagée de savoir, car il me manquait toujours une explication. Impossible d'en parler à mes deux enfants qui ont rompu tout contact. Je pense que ce secret les a également lourdement impactés. Il va falloir attendre qu'ils soient prêts à l'entendre.
Mmh.
Vous restez avec nous, on parle des secrets de famille. Selon vous, doit-on tout dire ? Un secret a bouleversé votre famille ? Eh bien, vous nous racontez au 39-21.
Comme quoi, on voit dans la dernière annonce que vous venez de nous faire, on dit combien ces secrets de famille peuvent toucher, comme le disait Chantal Diamante tout à l'heure, plusieurs générations. On continue d'en parler dans quelques instants.
Les secrets de famille, peut-on ou doit-on se libérer du poids du passé ? Sur Europe 1, vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes toujours en ligne avec Chantal Diamante, thérapeute familiale et membre fondateur de la société de thérapie familiale, et toujours avec Lucienne qui nous explique avoir vécu cette aventure, sa vie, hein, avec un père qui ne lui a jamais révélé qui était sa maman, encore jusqu'à aujourd'hui, hein, Lucienne, puisque aujourd'hui il ne vous a toujours rien dit.
Oui.
Les petits-enfants, quand même, on sait qu'un grand-père, il peut être un peu plus flexible. Aucun de vos enfants n'a réussi ?
Non, pas du tout. Non, de toute façon, mon père et moi, on est assez distants. Il y a beaucoup de sentiments entre nous, mais c'est marrant, on dirait qu'on a peur de s'approcher l'un l'autre, vous voyez ?
Oui, je vois très bien.
Comme quand on veut caresser un animal craintif, en fait. C'est ça, et j'aimerais tellement, et il le sait.
Il y a beaucoup de pudeur entre vous, beaucoup de pudeur.
Voilà, exactement. Ouais. Puis, comme je disais à votre assistante quand elle m'a téléphoné, lui-même est le fruit d'un pas d'un secret, mais presque,
ouais.
Puisque lui-même n'a pas été reconnu par son papa, donc ouais. Bon.
Mmh. Il y a un lourd passé.
Lucienne, j'aimerais vous demander, est-ce que vous avez une explication ? Pourquoi votre père veut taire le nom de votre mère biologique ? Est-ce que vous avez des hypothèses ? Pourquoi il agit comme ça ?
Oui, alors, écoutez, il est probable que ma mère ait été mariée et qu'elle ait eu à ce moment-là déjà des enfants. Alors, je pense que c'est peut-être ça qui
pour la protéger,
qui
peut-être
fait, je ne sais pas, je ne sais pas. je ne sais pas du tout. Moi, ce que je sais, c'est que je suis arrivée chez ma grand-mère à l'âge de 3 mois avec mon père. Et puis voilà, depuis, ça a été ma famille qui s'est occupée de moi.
Hein. Et silence, silence radio total. Hein.
Ah, complètement, oui, oui, complètement.
Vous lui en voulez aujourd'hui ou,
ah, pas
ou...
du tout. À non. Mon père ah, ouais. Pas du tout, non. Non. C'est sa vie. C'est sa vie. Mm-hmm. J'ai vécu la mienne avec mes erreurs. Et ben lui, il a fait la sienne avec ses erreurs.
Oui, c'est sa vie, mais c'est sa vie, mais il vous a quand même voilà mis dans une situation. Vivre sans maman, c'est quand même de son fait.
Tout à fait. Mais vous savez, une fois au téléphone, il m'a dit j'ai fait ce que j'ai pu.
Oui.
Et d'accord. Curieusement, ça a un petit peu débridé peut-être ce que j'avais après lui. Hein.
Comme pour chacun de nous, j'ai envie de vous dire, on fait toujours comme on peut. Hein, et on l'oublie souvent, mais on fait toujours comme on peut. Je me tourne vers vous, Chantal Diamanté. Je rappelle que vous êtes thérapeute familiale et membre fondateur de la société de thérapie familiale. Un enfant se pose-t-il instinctivement la question de ses origines ? Est-ce que ça peut, pour certains, ne pas être important du tout ?
Alors, ça peut... je veux dire, ça n'est jamais pas important. C'est toujours très important. Mm-hmm. Dans la construction du sujet, c'est même, ouais. C'est même fondamental. Donc, évidemment, l'enfant se pose ces questions, mais il se le pose à travers différents modèles. Par exemple, les contes pour enfants sont toujours... Il y a toujours des marâtres qui sont effectivement des belles-mères, donc des mères d'adoption ou des mères d'un second mariage, d'un second lit, comme on disait. Donc, ces histoires-là sont fondamentales un peu pour savoir où on va. Ben, il faut connaître d'où on vient.
Bien sûr.
Quelque chose comme ça. Mmh.
Et alors justement, comment se construire sans savoir, comme c'est le cas de Lucienne, qui est sa mère ou qui est son père, sans savoir ?
On se raconte des histoires et Lucienne en a une. Elle dit qu'elle suppose que sa maman biologique était déjà mère de famille.
Oui.
Mmh. Alors c'est un peu compliqué pour elle parce que qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas pu, elle, avoir accès à cette mère-là ? Mais ce qui est touchant aussi dans son histoire, c'est qu'il y a une répétition. Son père a été un enfant abandonné par son propre père. Et pour ne pas répéter son histoire, il n'a pas abandonné lui-même sa propre enfant, mais d'une certaine manière, il l'a amputé comme il a été amputé d'une partie de sa filiation.
Mmh. Lucienne, arrivez-vous à vous dire qu'aujourd'hui, vous vivrez toute votre vie avec ce secret, que maintenant c'est terminé ?
Oui, bien sûr. Bon, je continue toujours à aller sur des sites de recherche, mais je sais que c'est peine perdue, hein, quoi mm-hmm. qu'il se passe. Voilà. Mm-hmm. Bon, mon père est le seul maintenant survivant entre guillemets hein, oui. de ma famille, et je pense que je ne saurai rien. Non, non.
Mm-hmm. À moins qu'un jour il se dessine enfin. Hein.
C'est possible. Mm-hmm. C'est possible. C'est possible, puisque là, j'ai renoué avec lui depuis le début de l'année. Bon, c'est récent.
Ouais.
Et peut-être arrivera-t-il à en parler. Voilà, mais c'est vrai que ça a un impact sur... ça a eu un impact sur toute ma vie. Et j'écoutais ce que disait donc ce thérapeute. Effectivement, moi, je suis quelqu'un d'assez fantasque, rêveur, mélancolique. Mais oui, ça vient de là. Hein.
Mmh. Bon, en tout cas, écoutez, je vous souhaite plein de bonheur avec vos 4 enfants qui ont l'air de bien vous entourer, Lucienne. Merci beaucoup pour votre témoignage au 3921. Merci beaucoup à Chantal Diamanté. Merci aussi à Catherine et à Noémie de nous avoir appelés. C'est la fin de cette émission. Certains secrets de famille sont nocifs, ils pèsent sur l'existence, nourrissent inquiétudes et fantasmes, empêchent de se construire et de vivre sereinement. Les non-dits font parfois des ravages, encore plus quand ils sont perceptibles. Mais si tout ne se dit pas, n'importe comment, en tout cas, il est important de se poser les bonnes questions et d'établir les relations de confiance avec son entourage. Ma chère Ambline, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez continuer à en discuter, bien évidemment, sur tous les réseaux sociaux.
Oui, sur le groupe de l'émission, tous les réseaux sociaux, celui que vous voulez. Le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1, préférentiellement sur Instagram aussi, Olivier Delacroix officiel. Et vous n'hésitez pas à venir échanger le soir avec Sophie Peters, à vous confier lors de la libre antenne d'Europe 1 entre 22h30 et 1h du matin.